Bonjour à tous. Psaume 119, verset 105, nous lisons. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ce matin, nous sommes rassemblés pour mettre à part quelques heures de notre week-end pour nourrir notre foi, pour laisser Dieu parler à nos cœurs par des textes, des chants, des prières ou une méditation silencieuse. Tout à l'heure, chacun repartira chez lui et demain retrouvera son quotidien, sa vie sociale, ses engagements, ses préoccupations. Et on se demande quelquefois si ces deux mondes, le monde du dimanche matin à l'église et le monde de notre société contemporaine, ne sont pas complètement étrangers l'un à l'autre. Le mensuel des églises mennonites de janvier de cette année, où chacune de nos églises écrit un article pour partager un aspect de sa vie d'église, deux de nos églises, Villeneuve-le-Comte en région parisienne et Lunéville en Lorraine, pour ne pas les citer, font part de leur intérêt pour les questions environnementales. Il est question d'adhésion au label Église verte et de collecte de métaux à recycler. Si ces sujets sont abordés le dimanche, lorsque les fidèles se rassemblent en église autour de la parole de Dieu, on comprend immédiatement que ce thème sera décliné tout au long de la semaine où chacun s'interrogera sur sa façon de consommer, de ne pas gaspiller des ressources terrestres. Sur ce sujet, la société occidentale contemporaine rejoint les préoccupations de ses églises. Et tout au long de la semaine, les médias nous rappellent le changement climatique, la montée des eaux, l'effondrement de la biodiversité et pour certains, la vie humaine devenue impossible sur notre planète à moyen terme. On peut légitimement se demander si l'Église ou ses membres ne se mettent pas sous l'influence de la société. En lisant la Bible, on comprend bien que l'être humain a sa place dans la création de Dieu, que Dieu a un plan pour l'humanité, que Dieu est éternel et que chaque génération humaine, chaque être vivant, est appelé à exister, à vivre et à rendre compte de ses faits et gestes lorsqu'il rencontrera le Créateur. Ce matin, nous ne parlerons pas de protection de l'environnement, mais d'un autre sujet dont la Bible parle, un sujet à contre-courant des thèmes d'actualité à la mode. Ce sujet est proposé par la Commission de réflexion pour la paix de nos églises. En principe, c'est pour le dimanche 8 mars de cette année. La présidence que Rachel a faite s'est déjà inspirée de cette journée qui est préparée un petit peu avec un dossier pour tout le monde. Et donc, en introduction de ce thème, il est écrit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. » La Bible fait souvent référence à l'intelligence, mélange de connaissances, d'expériences, de savoir, de confrontation d'idées, d'argumentation logique, pour arriver à discerner quelle est la volonté de Dieu pour l'humain et pour l'humanité dans son ensemble. Le sujet proposé cette année concerne les armes, production, possession, utilisation. L'Ancien comme le Nouveau Testament parle d'armes, et notre société contemporaine évoque en permanence les conflits armés et le maintien de l'ordre dans chaque pays. Nous verrons dans les passages que nous évoquerons ce matin que Dieu, dans sa parole, prône un armement à minima, voire même un refus de la confrontation armée violente où les armes ne servent plus à rien, voire même une attitude personnelle où les armes ne sont plus des armes physiques mais spirituelles. Pour le thème de ce matin, nous ne subirons aucune influence des médias contemporains pour nous détourner de la recherche de la volonté de Dieu pour l'humanité concernant la réduction de la production et de la commercialisation des armes. Le thème n'intéresse que très peu nos contemporains occidentaux. Nous lisons un premier texte dans Deutéronome 17, les versets 14 à 20. En intitulé, c'est marqué « Prescription relative à la royauté ». Et donc, à partir du verset 14. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras « Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent », tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi au milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, qu'il ne se fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Que le roi, choisi par l'Éternel, n'ait pas un grand nombre de chevaux. Le cheval était à l'époque une arme de guerre pour le déplacement des troupes, pour manœuvrer lors des affrontements avec l'ennemi, pour faire circuler l'information sur le champ de bataille et pour impressionner l'adversaire qui était en face à pied. Le roi, choisi par l'Éternel, ne devait pas avoir un grand nombre de chevaux, afin qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte. Depuis Joseph jusqu'à Moïse, le peuple d'Israël a été asservi par les pharaons égyptiens. Le conseil de l'Éternel est de limiter les forces offensives du roi d'Israël pour qu'il ne soit pas tenté de livrer une bataille contre un pays voisin qui pourrait ramener le peuple dans la servitude. Les exemples sont nombreux, tout au long de l'histoire, y compris dans notre histoire française. L'accumulation d'armes de guerre pour conquérir les territoires et asservir des peuples finissent par de grandes souffrances et un accroissement durable de la pauvreté pour toute la population. D'après l'Éternel, le roi, le dirigeant d'une nation, devrait être un homme qui fasse une copie de la loi, qui la lise, qui l'apprenne à craindre l'Éternel. Pour les prochaines élections, j'attends un candidat qui aurait ce genre de programme afin que je vote pour lui sans
passage.
Lors de tensions internationales, les pays qui disposent de forces armées limitées font moins de dégâts humains et matériels que ceux qui disposent de forces suffisantes pour faire exploser la planète. Lorsque nous évoquons la dissuasion nucléaire, par exemple, on nous fait croire que la paix vécue localement actuellement est garantie par nos missiles à ogive nucléaire, entretenus à grands frais. De façon évidente, les pays qui ne possèdent pas ces armements pléthoriques et sophistiqués ne sont potentiellement pas plus exposés à une attaque massive et destructrice dans le contexte actuel. Faire baisser les tensions par l'action diplomatique génère moins de souffrance et de pauvreté que les bombardements aveugles des populations civiles. Il est plus facile de ne pas être violent quand on n'a pas d'armes que quand on en a. Les armes ont une logique. Il est tellement tentant de les utiliser pour résoudre une crise. Lisons un texte dans Josué 11, les versets 1 à 9. Une de ces horribles batailles de conquête du pays de Canaan, où Dieu donne la victoire au peuple d'Israël et ordonne la destruction de l'armement de l'ennemi. Josué 11, versets 1 à 9. Jabba, roi de Hatsor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Shimron, au roi d'Achaf, au roi qui était au nord dans la montagne, dans la plaine, au midi de Kinneret, dans la vallée et sur les hauteurs de Dor à l'occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Éthiens, aux Phérésiens, aux Jébusiens dans la montagne et aux Éviens au pied de l'Hermon dans le pays de Mitzpah. Ils sortirent, eux et toute leur armée avec eux, formant un peuple innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. » Josué, avec tous ses gens de guerre, arriva subitement sur eux près des eaux de Mérom, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël, ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, jusqu'à Misrephoth-Maïm et jusqu'à la vallée de Mitzpah vers l'Orient, et ils battirent sans en laisser échapper aucun. Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit, il coupa les jarrets à leurs chevaux et il brûla leurs chars au feu. Couper les jarrets à un cheval, c'est le rendre inutilisable pour quoi que ce soit, et notamment pour son utilisation militaire. Brûler les chars a été le moyen de ne pas accaparer un grand nombre d'Israéliens à la maintenance et à l'entretien de matériel militaire inutile et superflu. Plus tard, lorsque les Philistins défient Saül et son armée et que Goliath, le géant brutal, cherche à affronter en combat singulier un guerrier de Saül, David se présente devant lui avec un équipement minimal, sa fronde et cinq petites pierres. Sa vivacité, sa souplesse et sa précision permettent de terrasser la force brute de Goliath, alourdie par un équipement professionnel dernier cri de l'époque. Dans le livre des Rois, il est régulièrement répété que ce ne sont ni les armes, ni les alliances avec des peuples étrangers qui protégeront Israël, mais la fidélité à son Seigneur. Nous lisons dans Psaume 33, les versets 16 à 20. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. C'était l'Ancien Testament. Dieu a permis des victoires militaires territoriales, Dieu a permis des défaites et même la déportation du peuple d'Israël. Mais à aucun moment, la militarisation à outrance et l'escalade de l'armement n'est préconisée pour une vie paisible où l'homme reste à sa place et où la souveraineté de Dieu est respectée. Nous arrivons au Nouveau Testament. Jésus et ses disciples, l'Église et les apôtres, qu'ont-ils à nous apprendre au sujet de l'utilisation modérée des armes et des forces armées? La nuit de la naissance de Jésus, la multitude de l'armée céleste loue Dieu et dit, Luc 2, verset 14, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Une autre traduction dit, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et, sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir. » De même que les lieux célestes sont pour la gloire de Dieu, la terre est pour la paix. Le plaisir de Dieu, c'est que la paix habite la terre. Dans la Bible, le shalom est plus que l'absence de conflit. Il induit la sécurité et la prospérité. Si Dieu nous donne la réconciliation, nous sommes invités à devenir des artisans de paix autour de nous. S'il n'y a pas de paix sur notre terre, c'est que nous n'avons pas prêté suffisamment attention à la déclaration de paix des anges la nuit où Jésus est venu nous rejoindre dans notre humanité. Au début du culte, nous avons lu une partie du sermon sur la montagne. Il exprime clairement que l'équilibre de la terreur, œil pour œil et dent pour dent, ne font pas partie du programme de Jésus. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Jésus n'a pas dit que celui qui cherche à se défendre sans avoir recours à la violence ne sera pas frappé. Il a dit et montré pour lui-même que c'était là le chemin du disciple. Il n'est pas question de faiblesse ou de lâcheté. Il est question de prendre position pour la justice, et donc contre l'injustice, et pour la paix, et donc pour la résolution pacifique des conflits. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, les versets 35 à 38, nous lisons. Jésus parle. Il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent de rien. Et il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. » Ils dirent, « Seigneur, voici deux épées. » Il leur dit, « Ça suffit. » Que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement pour en acheter une. Les commentaires expliquent qu'il s'agit d'un glaive défensif qu'il était prudent de posséder pour ne pas se faire tuer bêtement par un brigand ou une bête sauvage. Au verset 38, Jésus confirme qu'il ne souhaite pas organiser sa défense au moment de son arrestation. Les deux épées présentées par son entourage sont suffisantes. Au moment de l'arrestation, un de ses proches, Pierre, sort son épée et tranche une oreille à un serviteur du souverain sacrificateur. Jésus coupe l'élan agressif de son défenseur et guérit l'oreille coupée. Dans Matthieu chapitre 26, verset 52, la remarque de Jésus est précisée. Donc il interpelle Pierre et lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Quand on est armé, la réponse à la violence est l'emploi des armes. Quand on n'est pas armé, on cherche une réponse autre. Si Jésus n'avait pas retenu le disciple qui a sorti son épée pour le défendre, l'affrontement avec ceux qui venaient pour l'arrêter aurait fait des morts parmi les disciples, de façon certaine. Jésus s'est laissé arrêter. Il a été condamné par les autorités religieuses de l'époque, avec l'acquiescement de l'autorité romaine, et il a été condamné à mourir sur la croix. Jésus est mort pour que ses disciples ne soient pas inquiétés. Et dans l'évangile de Jean 18, verset 9, il est écrit « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Lors de son arrestation, Jésus stoppe la violence en ordonnant à Pierre de ranger son épée. Deux épées disponibles au départ pour finalement ne pas les utiliser. Un bel exemple de l'inutilité d'un armement excessif, qu'il soit défensif ou offensif. Devant une injustice flagrante, révoltant l'arrestation de Jésus, la violence est une vraie tentation. L'Évangile, le message de Jésus, rappelle que la violence n'est pas la solution. L'apôtre Paul va dans le même sens. Il écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur ». Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. En devenant chrétien, nous ne devenons pas des citoyens étrangers dans le pays où nous vivons. Dans la mesure du possible, dans le respect des lois, nous devons prendre position et exprimer nos convictions fondées et ancrées dans la parole de Dieu. La communauté chrétienne primitive a connu beaucoup de martyrs. Plus tard dans l'histoire, des réformateurs qui ont redécouvert le message de l'Évangile par la lecture et une compréhension renouvelée du plan de Dieu pour l'humanité ont payé de leur vie. De nos jours, dans le pays où le pouvoir se maintient par la force, le message de l'Évangile est étouffé, au sens propre comme au sens figuré. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 20, Paul nous explique « Nous ne sommes pas appelés à livrer un combat physique contre la chair et le sang, mais un combat spirituel contre les puissances du mal. » Nous lisons Éphésiens 6, versets 10 à 20.
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Les armes que Dieu met à notre disposition sont la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut et l'esprit. Ce ne sont que des armes intérieures. La vie chrétienne n'est pas une promenade bucolique où Dieu arrangerait nos petites affaires du quotidien comme certains voudraient le faire croire. La vie chrétienne est un combat pour introduire la bonne nouvelle de l'Évangile dans notre vie et dans le monde dans lequel nous vivons, pour faire reculer les forces de ténèbres. Il n'y a que deux forces dans le monde, la puissance des armes et les armes de l'esprit. L'Évangile nous appelle à nous saisir de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est par l'étude de la parole de Dieu que nous nous enracinons dans la foi et que nous faisons reculer la fascination que la puissance des armes exerce sur nous. Pour conclure, la violence au quotidien n'est pas voulu par Dieu le Créateur. Ce sont les humains qui consacrent beaucoup de leurs moyens à développer toutes sortes de stratégies dans le seul but de s'accaparer du pouvoir pour eux-mêmes et des richesses pour leur clan. La question que certains posent, si Dieu existe, pourquoi la guerre? Cette question n'est pas légitime. La réponse serait plutôt, si les hommes arrêtaient de fabriquer et de commercialiser des armes destinées à tuer, il n'y aurait plus de guerre. La paix que donne l'Évangile n'est pas seulement intérieure et individuelle. Elle est aussi sociale. Elle détruit le mur de la haine entre les peuples et permet à ceux qui auparavant ne pouvaient pas vivre ensemble de le faire en Christ. Cette paix est vécue dans la communauté de l'Église qui devient communauté de paix, de pardon et de réconciliation. Cette même Église a reçu une mission à remplir au sein d'un monde violent. Cette mission consiste à annoncer et à vivre la paix du Christ. Je relis ma dernière pensée parce qu'elle n'est pas de moi. La paix que donne l'Évangile n'est pas seulement intérieure et individuelle, elle est aussi sociale. Elle détruit le mur de la haine entre les peuples et permet à ceux qui auparavant ne pouvaient pas vivre ensemble de le faire en Christ. Cette paix est vécue dans la communauté de l'Église, qui devient communauté de paix, de pardon et de réconciliation. Cette même Église a reçu une mission à remplir au sein d'un monde violent. Cette mission consiste à annoncer et à vivre la paix du Christ. Amen.